Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 67, Dav Samer Zain. Bonne écoute et bon limoud.
Amar le Rabbi Eliezer, le Rabbi Eliezer lui a dit Ve'are kodshe kodashim sheshachtan badarom, ve'shachtan leshem kodshim kalim yochichu. Pourtant, des sacrifices d'une sainteté suprême pour lesquels il existe une interdiction de Meïla dès qu'ils ont été sanctifiés et qui doivent être donc sacrifiés dans la moitié nord de la cour du sanctuaire, et il les a sacrifiés dans la moitié sud de la cour du sanctuaire, donc ils ont été invalidés, il les a sacrifiés au nom d'un sacrifice d'une sainteté légère, pour lesquels il n'y a pas d'interdiction de Meïla jusqu'à l'aspersion du sang. Dès lors, il y a une interdiction de Meïla que pour les parties destinées à être offertes sur l'autel. Nous pouvons donc prouver de là que le raisonnement de Rabbi Yehoshua est faux. Sheken Shina et Shemam Ledava Shenbo Meïla, il a donc changé le nom de ses sacrifices d'une sainteté suprême à un sacrifice qui n'a pas d'interdiction de Meïla. Ou Moalim Bahem, et quand même, celui qui en tire profit a transgressé l'interdiction de Meïla. C'est-à-dire, l'interdiction de Meïla n'est pas levée pour autant. Et au contraire, puisqu'à l'origine, ce sacrifice d'une sainteté suprême avait une interdiction de Meïla, lorsqu'il a été invalidé, parce qu'il a été sacrifié dans la partie sud de la cour du sanctuaire et au nom d'un autre sacrifice, il est évident que l'interdiction de Meïla ne sera pas levée. Afata al tetame, toi aussi ne t'étonne pas al haola, sur l'oiseau destiné à être offert comme korbanola. Afalpi Sheshina Shema le Davar Shenbo Meïla, même s'il a changé son nom, donc pour avoir le nom d'un sacrifice pour lequel il n'y aura pas d'interdiction de Meïla après l'aspersion de son sang, Sheima Luba, quand même, celui qui en tire profit aura transgressé l'interdiction de Meïla, donc l'interdiction de Meïla n'est pas levée. Amar lo Rabbi Yehoshua lui répond, lo, non, cette preuve est fausse. Car im amarta bekotche kodashim sheshartan badarom veshartam leshem kodshim kalim, si tu dis dans le cas d'un sacrifice d'une sainteté suprême qui a été sacrifié dans la partie sud de la cour du sanctuaire et qu'il a sacrifié au nom d'un sacrifice d'une sainteté légère, donc tu dis que l'interdiction de Meïla n'est pas levée, il y a une bonne raison pour cela. Sheken shina et shemam le davar shiyesh bo isur ve'eter, car il a changé le nom de ce sacrifice d'une sainteté suprême au nom d'un autre sacrifice pour lequel il y aura des parties interdites et des parties permises. Car comme nous l'avons expliqué précédemment, pour un sacrifice d'une sainteté légère, l'interdiction de Meïla prend effet après l'aspersion du sang, et ce seulement pour les parties destinées à être offertes sur l'autel. Mais en tout cas, lorsqu'il a changé le nom de ce sacrifice d'une sainteté suprême, il lui a donné le nom d'un sacrifice pour lequel il y aura quand même une interdiction de Meïla. C'est pourquoi nous disons que l'interdiction de Meïla n'est pas levée. Tomar be'ola sheshina et shemah le davar shekulo eter. Pourras-tu dire de même pour l'oiseau destiné à être offert comme korban ola? Lorsqu'il a changé son nom, il lui a changé son nom pour lui donner le nom d'un sacrifice qui sera entièrement permis, où il n'y aura aucune interdiction de Meïla après l'aspersion de son sang. Puisque c'est ainsi, nous pouvons dire que l'interdiction de Meïla sera levée, bien sûr, après l'aspersion du sang. En fait, nous noterons que Rabbi Yehoshua n'a pas expliqué réellement pourquoi, uniquement dans ce cas, le statut de ce korban ola change et devient un korban khatat, alors que pour tous les autres sacrifices, ce n'est pas ainsi. Mais en fait, nous verrons l'explication de l'opinion de Rabbi Yehoshua dans la Gemara. Cependant, Rabbi Yehoshua a répondu à Rabbi Eliezer selon sa compréhension de l'opinion de Rabbi Yehoshua, que tout sacrifice qui est sacrifié en changeant le nom et en faisant des actions supplémentaires pour changer le statut du sacrifice, le statut du sacrifice a changé. Mais en fait, comme nous le verrons dans la Gemara, ceci n'existe que pour l'oiseau destiné à être offert comme korban ola, qui a été changé en korban khatat. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Samer Vav. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Samer Zayin à la 10e ligne du haut de la page, au début de la Gemara. Nous avons vu dans la Mishnah une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua concernant le cas d'un oiseau destiné à être offert comme korbanola qui a été sacrifié au pied de l'autel comme s'il s'agissait d'un korban khatat, et il l'a sacrifié à la manière d'un korban khatat, c'est-à-dire il n'a sectionné qu'un seul des deux organes vitaux au lieu d'en sectionner les deux, et il a fait cela au nom d'un korban khatat, c'est-à-dire il a pensé qu'il s'agissait effectivement d'un korban khatat. Selon Rabbi Eliezer, le sacrifice est invalidé, l'interdiction de Meïla n'est pas levée, donc celui qui en tire profit a transgressé l'interdiction de Meïla. Tandis que selon Rabbi Yoshua, le statut de ce sacrifice a changé, il est devenu korban khatat. Par conséquent, après l'aspersion de son sang, celui qui en tire profit n'a pas transgressé l'interdiction de Meïla, car il est destiné à la consommation, l'interdiction de Meïla est levée. Alors l'Agmara dit là-dessus, Tania, il a été enseigné dans une braïta. Amarlo, Rabbi Eliezer, le Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer a présenté à Rabbi Yoshua l'argument suivant. Hacham shesharto betzafon leshem shlamim yochiach. Je peux te prouver, contrairement à ton opinion, du cas d'un korban hacham, qui est un sacrifice d'une sainteté suprême, qu'il a sacrifié dans la moitié nord de la cour du sanctuaire comme il se doit, au nom d'un korban shlamim. Je peux te prouver donc le contraire. Chez Shina et Chemo, il a donc changé son nom, il l'a transformé pour ainsi dire en Korban Shlamim, ou Moalimbo, et quand même celui qui en tire profit a transgressé l'interdiction de Meïla. Nous noterons, comme l'explique le Chazon Yecheskel, que Rabbi Eliezer a compris que l'opinion de Rabbi Yoshua est que lorsqu'on sacrifie un sacrifice au nom d'un autre sacrifice, le statut du sacrifice change et il est transformé au sacrifice au nom duquel il l'a offert. Par conséquent, le Korban Hacham, qui est un sacrifice d'une sainteté suprême, pour lequel il y a une interdiction de Meïla avant l'aspersion de son sang, et en fait, selon la compréhension de Rabbi Eliezer, l'opinion de Rabbi Yoshua devrait être que si on l'a sacrifié au nom d'un Korban Shlamim, il est transformé en Korban Shlamim, qui est un sacrifice d'une sainteté légère, pour lequel il n'y a pas d'interdiction de Meïla avant l'aspersion du sang. Or, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que l'interdiction de Meïla existe toujours pour ce Korban Hacham qui a été sacrifié au nom d'un Korban Shlamim. Ve'afata al tetame, toi aussi ne t'étonne pas al ha'ola, sur l'oiseau destiné à être offert comme Korban Ola, she'afalpi she'shina et shema, même s'il a changé son nom et il l'a sacrifié au nom d'un Korban Khatat, she'imaluba, que celui qui en tire profit a transgressé l'interdiction de Meïla, c'est-à-dire l'interdiction de Meïla n'est pas levée, même si on l'a sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Amar lo Rabbi Yoshua, lo, non, ce raisonnement est faux, car im amarta be'asham, si tu parles d'un korban asham, qui a été sacrifié au nom d'un korban shlamim, chez im shina et shemo, même s'il a changé son nom, c'est-à-dire il l'a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, lo shina et mekomo, il n'a pas changé le lieu de sa sacrification, par conséquent, même s'il a changé son nom, donc il l'a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, il n'y a pas de raison de dire que le statut du sacrifice a changé. Tomar Beola, pourras-tu dire de même concernant l'oiseau destiné à être offert comme Korban Ola, Sheshina et Shema, Veshina et Mekoma, où il a changé et son nom, lorsqu'il l'a offert au nom d'un Korban Khatat, et il a changé aussi le lieu de sa sacrification lorsqu'il l'a sacrifié au pied de l'autel, et c'est uniquement dans ce cas que je dis que le statut de cet oiseau destiné à être offert comme Korban Ola a changé, et il est devenu Korban Khatat. Amar le Rabbi Eliezer, Hacham shesharto bedarom leshem shlamim yochiach. Rabbi Eliezer lui répond, dans le cas d'un korban Hacham, qu'il a sacrifié dans la partie sud de la cour du sanctuaire au nom d'un korban shlamim, te prouvera le contraire. Sheshina et shmo veshina et mekomo, il a changé son nom lorsqu'il l'a offert au nom d'un autre sacrifice, d'une sainteté légère, et il a changé aussi le lieu de son offrande lorsqu'il l'a sacrifié dans la partie sud de la cour du sanctuaire, au lieu de le faire dans la partie nord de la cour du sanctuaire, ou Moalinbo, et quand même, celui qui en tire profit transgresse l'interdiction de Meïla, l'interdiction n'est donc pas levée. Afata al tetame al haola, toi aussi ne t'étonne pas sur l'oiseau destiné à être offert comme Korbanola, Shafalpi Sheshina et Shema, Veshina et Mekoma, même s'il a changé son nom lorsqu'il l'a sacrifié au nom d'un Korban Khatat, et il a aussi changé le lieu de sa sacrification lorsqu'il l'a sacrifié au pied de l'autel, Moalimba, quand même, celui qui en tire profit a transgressé l'interdiction de Meïla, autrement dit, l'interdiction ne sera pas levée. Amarlo Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua lui répond, lo, non. Im amarta be'asham, sheshina et shemo, veshina et mekomo. Si tu parles d'un korban asham, qu'il a sacrifié au nom d'un korban shlamim, et ce, dans la partie sud de la cour du sanctuaire. Il a donc changé son nom et il a aussi changé le lieu de sa sacrification. Veloshinat Maasav, cependant, il n'a pas changé la manière de le sacrifier, puisque tous les sacrifices sont sacrifiés de la même manière. Tomar Beola, pourras-tu dire de même pour l'oiseau destiné à être offert comme Korbanola, Sheshina et Shema, Vetma Seha, Veshina et Mekoma, où il a échangé son nom lorsqu'il l'a sacrifié au nom d'un Korban Khatat, et la manière de le sacrifier lorsqu'il n'a sectionné qu'un seul des deux organes vitaux, et il a aussi changé le lieu de sa sacrification lorsqu'il l'a sacrifié au pied de l'autel. C'est pourquoi je dis que le statut de ce sacrifice a changé et cet oiseau est devenu dès lors un Korban Khatat. Par conséquent, l'interdiction de Meïla est levée, tandis que pour le cas présenté par Rabbi Eliezer d'un Korban Hacham qui a été sacrifié dans la partie sud de la cour du sanctuaire au nom d'un Korban Shlamim, ces trois conditions ne sont pas remplies. C'est pourquoi l'interdiction de Meïla n'est pas levée. Amar Rava Venemale, Rabbi Eliezer n'a qu'à lui dire Hacham Sheshachto Bedarom Leshem Shlamim Beshinui Baalim. Dans le cas d'un Korban Hacham qui a été sacrifié dans la partie sud de la cour du sanctuaire au nom d'un Korban Shlamim, au nom d'un autre propriétaire, Sheshina et Shemo, dans ce cas il a donc changé le nom de ce sacrifice, Veshina et Mekomo, et il a aussi changé le lieu de sa sacrification lorsqu'il l'a sacrifié dans la partie sud de la cour du sanctuaire au lieu de le faire dans la partie nord de la cour du sanctuaire, Veshina et Maasav. Et nous pouvons aussi considérer qu'il a changé la manière de le sacrifier, voir le Sfatemet. Finalement, il y a eu trois changements invalidants. Nous pouvons donc considérer que le nom du sacrifice a changé. Par conséquent, l'interdiction de Meïla s'est levée. Mideloka Marleachi, puisque Rabbi Eliezer n'a pas posé cette question à Rabbi Yoshua, Shmamina, nous pouvons le dire de là, Nachit Rabbi Eliezer l'étamé de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer a compris l'opinion de Rabbi Yoshua, comme nous l'expliquerons par la suite, et c'est pour cela qu'il n'a pas posé cette question. Damar Rav Ada Bar Ahava, Omer Haya Rabbi Yoshua, Olat Haof, She'asa'ah Lemata Kemaase Khatat Leshem Khatat, un oiseau destiné à être offert comme Korban Ola, qu'il a sacrifié au pied de l'autel, et ce à la manière d'un Korban Khatat, c'est-à-dire en ne sectionnant qu'un seul des deux organes vitaux, au nom d'un Korban Khatat, Kivan Shemalak Ba Siman Echad, dès qu'il a sectionné un des organes vitaux, Nimshechet Venasit Khatataof, elle a été transformée pour devenir un oiseau destiné à être offert comme Korban Khatat. La Gemara demande, Yachi, si c'est ainsi, Khatat Haof Nami, en ce qui concerne un oiseau destiné à être offert comme Korban Khatat. Aussi, on devrait dire la même chose que She'asa'a le Ma'ala Kemaase Ha'ola, que s'il l'a sacrifié au sommet de l'autel, à la manière d'un Korban Ola, c'est-à-dire en sectionnant les deux organes vitaux, on devrait dire Michim Alakba Siman Echad, dès qu'il a sectionné un des deux organes vitaux, Timasher Vetehave Olataof, elle n'a qu'à être transformée et devenir un oiseau destiné à être offert comme Korban Ola. Vechitema Achinami, et si tu veux me dire qu'effectivement c'est vrai que selon Rabbi Yoshua, le statut de ce sacrifice a changé, Vehaamar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Benaa, car hi hatsa'a shel Mishnah, c'est ainsi qu'est présentée la Mishnah. Autrement dit, nous devons comprendre la Mishnah telle qu'elle a été rédigée. My love, n'est-ce pas que c'est cela qu'il veut dire, car hi hatsa'a vetulo, c'est ainsi que la Mishnah est rédigée et pas plus. Autrement dit, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua n'existe que concernant le Korban Ola qui a été sacrifié au pied de l'autel à la manière d'un Korban Khatat, au nom d'un Korban Khatat, mais lorsqu'il s'agit d'un oiseau destiné à être offert comme Korban Khatat qui a été sacrifié au sommet de l'autel, Rabbi Yoshua ne maintient pas son opinion. L'Agma répond, lo, kar hatza'a shel kula Mishnah, c'est ainsi qu'est présentée toute la Mishnah, c'est-à-dire, de même qu'il existe une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua concernant l'oiseau destiné à être offert comme Korban Ola qui a été sacrifié au pied de l'autel à la manière d'un Korban Khatat, au nom d'un Korban Khatat, que donc selon Rabbi Yoshua, ce sacrifice a été transformé en tant que Korban Khatat. Il en sera de même pour l'autre cas de la Mishnah, donc dans le cas d'un Korban Khatat qui a été sacrifié au sommet de l'autel à la manière d'un Korban Ola, au nom d'un Korban Ola, que selon Rabbi Yoshua, ce sacrifice est transformé en korbanola et il sera offert en tant que korbanola sur l'autel. Cependant, comme nous l'avons expliqué, même si ce sacrifice est transformé en korban ola, l'interdiction de Mila n'a pas été levée. Rav Ashi Amar, Bishlama olat ha'ov sha'asa'al lemata kemaaseh chatat el shem chatat. On comprend bien le cas d'un oiseau destiné à être offert comme korban ola qui a été sacrifié au pied de l'autel à la manière d'un korban chatat, au nom d'un korban chatat, que selon Rabbi Yoshua, ce sacrifice est transformé en korban chatat. C'est parce que Kivan Deha Hershera Besiman Echad, car en ce qui concerne celui-ci, donc le Korban Khatat, la manière valable de le sacrifier, c'est en ne sectionnant qu'un seul des deux organes vitaux, Veha Hershera Beshne Simanim, tandis qu'en ce qui concerne celui-ci, le Korban Ola, la manière dont sa sacrification est valable, c'est en sectionnant les deux organes vitaux. Veolat Haof Lemata Leta, et il est impossible de sacrifier un oiseau destiné à être offert comme korban ola au pied de l'autel, car, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il doit être sacrifié impérativement au sommet de l'autel. Par conséquent, kivan de malak ba siman echad, dès qu'il a sectionné un des deux organes vitaux au pied de l'autel, nimshechet venaasit chatataof, cet oiseau, donc ce sacrifice, se transforme et devient un oiseau destiné à être offert comme korban chatat. C'est-à-dire, avant qu'on puisse déclarer qu'il s'agit d'un korban ola qui a été invalidé, ce qui peut n'avoir lieu que lorsque les deux organes vitaux ont été sectionnés, le statut de korban chatat a pris effet. C'est pour cela que nous pouvons dire que le statut du sacrifice s'est transformé. Ela chatat haof, mais en ce qui concerne l'oiseau destiné à être offert comme korban chatat, qui vint de Amarmar, puisqu'il a été dit plus haut dans le chapitre précédent, Daf Samer Gimel Amud Bet, Milika be kol makom kshera. Le sectionnement du cou peut se faire n'importe où, même au sommet de l'autel. Michi malakba siman echad, dès qu'il a sectionné un des organes vitaux au nom d'un korbanola, ipsela, ce sacrifice a été invalidé. C'est-à-dire qu'il devient un korban chatat qui est invalidé, tandis que le statut de korbanola n'a pas encore pris effet puisqu'il n'a pas encore sectionné les deux organes vitaux. Qui hadar malik beidar siman, lorsqu'il sectionne le deuxième organe vital, comment peut ce sacrifice être transformé pour devenir un oiseau destiné à être korbanola? Donc en fait, après l'explication de Rav Ashi, nous voyons que l'opinion de Rabbi Yoshua est que si le sacrifice peut être transformé avant que prenne effet le statut du sacrifice d'origine, et il s'agirait donc d'un sacrifice invalidé, nous pouvons dire que le sacrifice a été transformé et devient au nom du sacrifice au nom duquel il a été sacrifié. Mais si tout d'abord le sacrifice devient un sacrifice invalidé, il ne peut plus être transformé au nom d'un autre sacrifice, donc au nom duquel il a été sacrifié. Par conséquent, toutes les questions de Rabbi Eliezer n'existent pas, parce que dans tous les cas qu'il a présentés, il s'agit de sacrifices qui sont invalidés car ils ont été sacrifiés au nom d'autres sacrifices ou bien ils ont été sacrifiés ailleurs, et ceci prend effet avant que le statut du nouveau sacrifice a pris effet. Et c'est cela donc que la Gemara veut dire, que lorsque Rabbi Eliezer a compris ceci, il a arrêté de lui poser des questions. Goufa, la Gemara reprend le passage qui a été dit précédemment. Amar Rav Ada bar Rahava, Omer haya Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua disait, Olat ha'ov sha'asa'ah lemata kemaaseh chatat l'shem chatat, un oiseau destiné à être offert comme korban ola, qu'il a sacrifié au pied de l'autel à la manière d'un korban chatat, c'est-à-dire en ne sectionnant qu'un seul des deux organes vitaux au nom d'un korban chatat, kivan shemalak ba siman echad, dès qu'il a sectionné un des deux organes vitaux, nimshechet venaasit chatataof, ce sacrifice est transformé et devient dès lors un oiseau destiné à être offert comme korban chatat.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Daf Samer Zayin Amud Bet. Alors la Guémara dit, Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah dans Masechet Kanim, Perek Gimel, Mishnah Gimel. Alors la Mishnah dit, Chatat lezu veola lezu. Si deux femmes ont offert ensemble un couple d'oiseaux, dans un cas où une devait offrir un korban khatat, par exemple à la suite d'une naissance, alors que son korban olah, elle l'avait déjà offert, la seconde devait offrir le korban olah, donc l'oiseau offert en tant que korban olah, tandis que le korban khatat, elle l'avait déjà offert. Elles se sont donc associées et elles ont acheté ensemble un couple d'oiseaux. La première a désigné un des oiseaux pour être son korban khatat, tandis que la seconde a désigné le second pour être son korban olah. Le Kohen aurait dû donc offrir le premier oiseau désigné comme korban khatat au pied de l'autel au nom de la première, et le deuxième, il aurait dû l'offrir en tant que korban olah au sommet de l'autel au nom de la seconde. Le Kohen, sans demander l'avis à personne, Asa Shtehen Lemala, s'il a offert tous les deux oiseaux en haut, pensant qu'il s'agissait de deux korban olah, Mertza Kacher ou Mertza Pasoul, la moitié est valable, tandis que l'autre moitié est invalidée. Car seul un seul des oiseaux qui était effectivement un korban olah est valable. Shtehen Lemata, s'il a offert les deux en bas, pensant qu'il s'agissait de deux korban khatat, Mertza Kacher ou Mertza Pasoul, la moitié est kacher, donc valable, tandis que l'autre moitié est invalidée, car en fait, seul le korban khatat est valable, tandis que le deuxième oiseau, qui était un korban olah, est invalidé. Achat le mala va achat le mata. S'il en a offert un en haut et un en bas, sans savoir quel des deux oiseaux était le korban khatat et l'autre était le korban olah, shtehen psulot, les deux oiseaux, donc ces deux sacrifices, sont invalidés. Shani Omer, car je peux dire, khatat karva le mala ve olah karva le mata. Il est possible que l'oiseau désigné comme korban khatat a été offert au sommet de l'autel en tant que korban olah, tandis que l'oiseau désigné comme korban olah a été offert au pied de l'autel en tant que korban khatat. Donc, puisqu'il est impossible de déterminer qu'est-ce que le Kohen a offert effectivement, les deux sacrifices sont invalidés. Alors la Gemara demande, Nehi namid ola karva lemata. Il est vrai qu'il y a la possibilité que l'oiseau désigné comme korban olah a été offert au pied de l'autel en tant que korban khatat. Mais selon ce que nous avons dit, selon Rabbi Yoshua, Timshor veteave khatataof, ce sacrifice, donc ce korban olah qui a été invalidé, n'a qu'à être transformé pour devenir un oiseau destiné à être offert comme korban khatat. Il serait donc transformé en tant que korban khatat de la première et il devrait être valable. Il n'y en a qu'un qui serait invalidé. L'Agma répond, Imur d'Amar Rabbi Yoshua bechad gavra. Il est vrai que Rabbi Yoshua dit cela lorsqu'il s'agit de sacrifices appartenant à une seule personne, le korban olah peut être transformé en korban khatat. Betre gavre mi'amar. Mais lorsqu'il s'agit de sacrifices appartenant à deux personnes différentes, maintient-il son opinion? Il est vrai que le korban olah peut se transformer en korban khatat, mais il ne peut pas changer de propriétaire. Donc finalement, la première ne possédant pas ce korban olah, même s'il a été transformé en korban khatat, il ne lui appartient pas. Il est donc de toute façon invalidé, étant donné que la seconde n'avait pas besoin d'offrir de korban khatat. La Gemara dit, Tashma vient écoute une preuve d'une autre Mishnah, toujours dans Masechet Kanim, Perek Gimel, Mishnah Dalet. La Mishnah parle d'un cas de deux femmes qui ont acheté leur sacrifice ensemble. Une des deux femmes avait une obligation d'offrir un oiseau comme korban khatat, par exemple, à cause d'une naissance antérieure. À part cela, elle avait l'obligation d'offrir un couple d'oiseaux dont un serait offert comme korban khatat et l'autre comme korban olah, par exemple aussi à la suite d'une naissance. La deuxième femme avait sur elle une obligation d'offrir un oiseau comme korban olah et en plus elle avait l'obligation d'offrir un couple d'oiseaux dont un serait offert comme korban khatat et l'autre comme korban olah. Elles ont donc acheté leur sacrifice ensemble. Elles ont acheté donc trois couples d'oiseaux. Pour le premier, ils ont déterminé quel serait le korban khatat d'une des femmes et le korban olah de l'autre femme. Pour les deux autres couples d'oiseaux, ils n'ont pas désigné de propriétaire. Donc, ces couples d'oiseaux seront offerts par le Kohen au nom de la personne qui doit l'offrir, sans désigner de nom. Cependant, un des couples, ils n'ont pas du tout désigné quel des deux oiseaux serait korban khatat et l'autre serait korban olah. Cette décision se fera par le Kohen lorsqu'il les offrira. Tandis que le deuxième couple, ils ont quand même décidé lequel serait korban khatat et l'autre korban olah. Donc la Mishnah dit, khatat ve olah, Si maintenant ces deux femmes ont amené au Kohen un korban khatat appartenant, comme nous l'avons dit, à une des femmes et un oiseau désigné comme korban ola appartenant à l'autre femme, Oustouma, et un couple d'oiseaux qui n'a pas été déterminé, donc quel des deux oiseaux serait korban khatat et l'autre korban ola, Oumefourechet, et le troisième couple, il a été désigné, quel des deux oiseaux serait korban khatat et l'autre korban ola. Finalement, le Kohen devait offrir chaque couple séparément. Un serait offert en haut en tant que korban ola et l'autre serait offert au pied de l'autel en tant que korban khatat. Non, si le Kohen n'a rien demandé, asa kulan lemala, s'il a offert tous ses sacrifices au sommet de l'autel, donc en tant que korban ola, mertsa kasher ou mertsa pasoul, il se trouve que la moitié de ce sacrifice est valable, car finalement il y a quand même dans ces couples trois korban ola, et l'autre moitié sera invalidée, car le korban khatat offert au sommet de l'autel est invalidé. Kulan lemata, s'il a offert tous ses sacrifices au pied de l'autel, donc en tant que korban khatat, mertsa kasher ou mertsa pasoul, la moitié de ses sacrifices est valable en tant que korban khatat, tandis que l'autre moitié est invalidée, car le korban ola offert au pied de l'autel est invalidé. Chetzian lemala ve chetzian lemata, s'il a offert la moitié de ses oiseaux au sommet de l'autel et l'autre moitié au pied de l'autel, il s'agit d'un cas où il a partagé chacun de ces trois couples, de manière à ce que de chaque couple, un oiseau a été offert au sommet de l'autel en tant que korban ola et l'autre oiseau a été offert en tant que korban khatat au pied de l'autel. En plus, qu'il n'a pas tenu compte qu'une partie de ces couples a été déterminée, donc quel des deux oiseaux serait korban khatat et l'autre korban ola, enak shera elastuma, le seul sacrifice valable, c'est le couple qui n'a pas été déterminé, car en fait, la nature de ces sacrifices a été déterminée par l'offrande du Kohen, donc ce qu'il a offert en haut a été désigné par le Kohen comme korban ola, et l'oiseau qui a été offert en bas a été désigné comme korban khatat. Cependant, comme nous l'avons dit, les propriétaires n'ont pas été désignés pour ce couple d'oiseaux qui n'a pas été déterminé, ou mitraleket benehen, et la valeur de ce sacrifice est partagée entre ces deux femmes. C'est-à-dire, puisque, comme nous l'avons dit, le propriétaire de ce sacrifice n'a pas été déterminé par le Kohen, il a simplement offert ce sacrifice au nom de la personne à qui ces sacrifices reviennent, il est normal que, puisqu'elles ont acheté ces sacrifices ensemble, les sacrifices valables se partagent entre ces deux femmes. Par conséquent, une de ces deux femmes a bénéficié d'un korban ola, tandis que l'autre a bénéficié d'un korban khatat. Et puisque nous ne savons pas quel est le bénéficiaire, elles achèteront ensemble un couple d'oiseaux qu'elles ne désigneront pas. Et donc, il sera offert par le Kohen et il déterminera quel sera le korban khatat et l'autre korban ola. Et il sera offert sous condition que si le premier korban ola qui a été offert pour la première femme, le korban khatat dans ce couple sera accordé à la première femme, et donc le korban ola sera accordé à la seconde femme. Et si c'était le contraire, c'est-à-dire que la première femme a bénéficié du korban khatat, le korban ola sera accordé donc à la première femme, et le korban khatat à la seconde. Il se trouve donc que chacune de ces deux femmes a offert deux couples d'oiseaux comme elle devait le faire, et ainsi, ce deuxième couple a remplacé un des couples qui a été invalidé, et elles devront offrir de toute façon le sacrifice qui leur manquait. Donc celle qui devait offrir un korban khatat devra offrir un korban khatat, et l'autre qui devait offrir en plus un korban ola devra offrir à nouveau un autre korban ola. Alors la Gemara constate « Ve'ilu mefurashim » En tout cas, c'est seul les oiseaux, donc le couple d'oiseaux qui n'a pas été déterminé, qui est valable, mais le couple d'oiseaux qui a été déterminé, quel des deux oiseaux sera korban khatat tandis que l'autre sera korban ola, l'eau, non, aucun de ces deux oiseaux ne sera valable. Alors la question se pose, Vamai, pourquoi? Nehi nami de ola karvalemata. Il est vrai qu'il est possible que l'oiseau destiné à être offert comme korban ola a été offert en bas, donc au pied de l'autel, timshoch veteave khatataof. Cet oiseau n'a qu'à être transformé et devenir un oiseau destiné à être offert comme korban khatat, et il serait valable donc pour une de ses femmes. Pourquoi doivent-elles remplacer donc les deux korban khatat, puisque finalement, selon cela, il y a deux korban khatat qui sont valables. Elles devraient donc se contenter de ne remplacer qu'un seul korban ola, à part les deux premiers oiseaux qui ont été invalidés, comme nous l'avons expliqué. Vechitema, et si tu veux me répondre, Hadelok Rabbi Yoshua, que cette Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Yoshua, ou Mimatsir Amartachi, peux-tu dire une chose pareille, que cette Mishnah dans Maseret Kanim ne suit pas l'opinion de Rabbi Yoshua? Tashma, viens écoute une preuve d'une autre Mishnah, toujours dans Maseret Kanim, Perek Gimel Mishnavav, où nous verrons clairement que Rabbi Yoshua en est l'auteur. Forcément, il est aussi l'auteur des Mishnayot précédentes. La Mishnah dit, Haisha She'amra, Hare Alai Ken Imelet Zahar, une femme qui aurait fait le vœu en disant, je m'engage à offrir un couple d'oiseaux comme Korban Ola, si j'enfante un garçon, Yalda Zahar, si elle a enfanté un garçon, Mevi'ash Tekinim, elle doit donc offrir deux couples d'oiseaux. Achat Lenidra, un pour accomplir son vœu. Il s'agira donc de deux korbanola, ve'achat lechovata, et un pour son obligation des sacrifices qu'elle doit offrir à la suite d'une naissance. Un des deux oiseaux sera un korban khatat, tandis que l'autre sera un korbanola. Netanatan la Kohen, si elle les a donnés au Kohen, ces deux couples, ha-Kohen tzarich la sotan shalosh lemala ve'achat lemata. Le Kohen doit donc offrir trois de ces oiseaux au sommet de l'autel en tant que korban ola, et le dernier oiseau au pied de l'autel en tant que korban khatat. Lo asaken, s'il n'a pas agi ainsi, et là plutôt il s'est trompé, asa shtaim lemala ou shtaim lemata. Il a offert deux oiseaux au sommet de l'autel en tant que korban ola et deux oiseaux au pied de l'autel en tant que korban khatat. Par exemple, il pensait que cette femme avait l'obligation d'offrir deux couples d'oiseaux pour deux naissances ou pour une autre raison, comme par exemple l'impureté de Zav qui a accompagné la naissance. Velo Nimlach, et il n'a pas pris conseil, donc demandé qu'est-ce qu'il devait faire. Finalement, un de ces oiseaux qui devait être offert comme Korban Ola a été invalidé. Tzricha Shetavi Od Breda Achat, elle doit donc offrir encore un oiseau pour remplacer le Korban Ola, Vetakrivena Lemala. Elle le fera offrir au sommet de l'autel, donc en tant que korban ola. Mimin Echad, ceci est vrai, si à l'origine, elle avait offert une sorte de couple d'oiseaux, c'est-à-dire elle avait offert deux couples de pigeonneaux ou deux couples de tourterelles, ou Mishne Minim, mais si à l'origine, elle avait offert deux sortes de couples, donc un des couples était des pigeonneaux et l'autre des tourterelles, forcément, le premier couple qui a été offert vient remplir l'obligation des sacrifices qu'elle doit offrir à la suite d'une naissance. Et c'est donc le deuxième couple qui est offert pour accomplir son vœu. Et puisque le Kohen ne se rappelle plus quel des deux couples a été offert en dernier, et d'autre part, comme la Mishnah dans Maseret Kanim, Perek Bet Mishnahe le dit, lorsqu'un couple d'oiseaux est offert comme sacrifice et un des deux oiseaux a été invalidé, l'oiseau qui est offert pour le remplacer doit être de la même sorte. Donc, cette femme qui doit offrir un korban ola pour compléter son vœu, doit offrir un oiseau de la même sorte que celui qui a été offert pour accomplir son vœu en premier lieu. Puisqu'il y a un doute, quelle sorte d'oiseau a été offert pour accomplir son vœu, elle doit donc offrir deux oiseaux de deux sortes différentes pour compléter son vœu. Pirsha Nidra, si au moment où elle a fait ce vœu, elle a aussi déterminé quelle sorte d'oiseau elle offrirait. Puis après, elle ne se rappelle plus si elle s'était engagée à offrir des pigeonneaux ou des tourterelles. À l'origine, elle devait donc offrir trois couples d'oiseaux, dont un serait pour remplir l'obligation d'offrir des sacrifices à la suite d'une naissance, et les deux autres seraient pour accomplir son vœu, à cause du doute, si elle s'était engagée à offrir des pigeonneaux ou des tourterelles. Donc il s'agira de deux couples de deux sortes différentes. Maintenant qu'elle n'avait offert que deux couples, un pour remplir l'obligation d'offrir des sacrifices à la suite d'une naissance, et l'autre pour accomplir son vœu, et comme nous l'avons dit, il y a eu une erreur, et donc un des korbanola a été invalidé, tzricha lavi od shalosh pridim, elle doit offrir encore trois oiseaux, donc une de la sorte d'oiseau qu'elle a offert, et deux autres de la deuxième sorte pour accomplir son vœu à cause du doute. Mimin Echad, et cela si à l'origine elle avait offert ses oiseaux d'une seule sorte, ou Mishne Minim, mais si à l'origine elle avait offert ses deux couples d'oiseaux de deux sortes différentes. Et comme nous l'avons dit précédemment, la sorte qui a été offerte en dernier, c'est celle qui est venue pour accomplir son vœu, et elle doit impérativement compléter ce couple avec un oiseau de la même sorte. Elle ne sait donc pas si elle doit offrir, par exemple, une tourterelle et deux pigeonneaux pour accomplir son vœu, ou bien un pigeonneau et deux tourterelles. Elle n'aura donc pas le choix que d'offrir quatre oiseaux, donc deux tourterelles et deux pigeonneaux, pour compléter et accomplir son vœu. Kav'a Nidra, si à l'origine elle avait fixé qu'elle offrirait les sacrifices de son vœu en même temps que les sacrifices de l'obligation, donc des sacrifices qu'elle doit offrir à la suite d'une naissance, ceci change la nature de son engagement. Il ne s'agit donc pas d'un simple engagement d'offrir un couple d'oiseaux, mais il s'agit d'un engagement d'offrir un grand sacrifice qui comprend à la fois les sacrifices de son vœu et ceux de son obligation. Par conséquent, si pour une raison ou une autre, son vœu n'a pas été accompli, elle doit à nouveau offrir les sacrifices de son vœu, en plus du korbanola qu'elle doit offrir pour son obligation. Cependant, elle n'a pas l'obligation d'offrir le korban khatat, car cet engagement ne peut influer que le korban ola qu'elle peut de toute façon offrir volontairement, et non pas le korban khatat qu'elle ne peut offrir que si elle a l'obligation de l'offrir.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.